Nous allons passer la parole à Priscilla Newell pour intervenir sur le thème danse, quête de liberté. À toi.
Ok, c'est bon comme ça.
Alors, c'est parti.
Bonjour à tous, bonsoir, peut-être à tous. Je vais partir du principe que la plupart d'entre vous ne sont pas les spécialistes de la danse contemporaine postmoderne. Donc, je vais m'adresser à vous de cette manière. Petit peu d'histoire. Première moitié du XXe siècle, la danse était très chargée, très dramatique. Mouvement stylisé, parler des sujets passionnels, les grands récits de la mythologie grecque et illustrations de l'inconscience. Et puis, on arrive à Merce Cunningham, donc prochaine. Et voilà, Merce Cunningham, il a commencé en 1953 et a terminé à sa mort en 2009. Mais cette pièce, c'était en 1961. Cunningham était très connu pour avoir éliminé toutes ces histoires. Le drame, qu'il n'y avait pas de sujet externe à la danse, le sujet de la danse, c'est la danse. Et le mouvement ne représente pas un paysage intérieur. Peut-être certains savent que Cunningham était le compagnon dans la vie et dans l'art de John Cage. Et tout comme John Cage disait que tout son peut être musique, Cunningham disait tout mouvement peut être la danse. Il avait une approche sans hiérarchisation du corps et de la scène, c'est-à-dire plutôt que faire tout frontalement, plutôt que d'avoir les visages qui expriment l'émotion et tout ça tout le temps, Cunningham, c'était tout le corps qui était expressif, y compris les orteils et le cou et le dos, etc. La scène était aussi partout, ce n'était pas que frontalement face publique. Le petit truc qui se passe derrière la scène, tout, au fond de scène, tout est sans hiérarchie, fait partie de cette danse-là. Il utilisait les méthodes aléatoires pour détourner ses propres clichés et le rationnel et la volonté. Séparer la musique et la danse. La musique, c'est une entité. La danse en est une autre. Et quand les deux sont mis ensemble, c'est la perception du spectateur qui en fait un troisième. Mais sa danse restait très technique, très formelle, et il y avait quand même l'hiérarchie chorégraphe-danseur qui était toujours là. Et du coup, en 62, on arrive à prochaine. Donc, si tu peux lancer la vidéo. Oups, c'est pas celui-là. Non. Non, non, yes, pardon. Si, c'est ça.
Judson is open arms. Judson is big mama. Judson is come in. Whatever you need, we're going to try to give it to you.
Ruth Emerson and Steve Paxton and I went to audition. Al Carmine said, I didn't quite know what I was looking at, but I sensed that it was important.
They were doing things in their dance that I and everyone else I knew did every day of their life. Walking, running, stooping, standing, touching, screaming.
We looked out the window for possible movement ideas, people walking in the street.
It was a new palette. All these materials were right there.
Begin.
You may not have known what the hell you were doing, but we were very, very rigorous about how we did it.
Just rocked my boat, you know. I don't mean I liked it all, I didn't. It scared the living daylights out of me, a lot of that stuff. But wow, it sure made me think.
Merci. Donc ça c'est Judson Dance Theater. Ça sortait d'une cour de composition de monsieur qui s'appelait Robert Dunn, qui était un élève de John Cage. Et les cours de composition se passaient dans le studio de Merce Cunningham, dans le même immeuble que le Living Theatre. Robert Dunn disait, par exemple, donner des sujets, créer une danse dans 3 minutes, qui dure 3 minutes, sans rien d'autre. Ou créer une danse qui parle de rien, où il n'y a pas grand-chose qui se passe, par exemple.
Et oups. Bah, c'était joli. Et au bout d'un certain temps de cette création et tout ça, les danseurs cherchent un endroit pour montrer leur travail. Ils ont trouvé refuge dans une église, Judson Church, à New York, Greenwich Village. Ça a duré de 62, certains disent 64, certains disent 66. D'autres disent que ça n'a jamais cessé parce que tout ce qu'ils avaient créé pendant ce temps, ils continuaient à créer. Ce collectif n'était pas que les danseurs. Après, il y a les plasticiens, les compositeurs, les cinéastes qui se sont joints à eux. Toutes les décisions étaient prises par consensus. Ils avaient un rendez-vous hebdomadaire et tout le monde décidait ensemble l'ordre où les présentations allaient se faire, qui se mettait, allait montrer leur travail ou pas. Il n'y avait pas de meneur, pas de suprématie les uns sur les autres. Ils se laissaient libres d'explorer individuellement et collectivement. Et c'était un projet non marchande, c'est-à-dire pour les ateliers hebdomadaires, personne ne payait. Pour présenter le travail à l'église, ils ne payaient pas. Et les spectateurs ne payaient pas non plus. Et du coup, je vais montrer... Ah, mais là, on va juste vous montrer les photos. Donc, on peut passer tranquillement par les photos. Là, c'est Steve Paxton et Yvonne Rainer. Au départ, ils étaient nus, mais comme ils étaient dans une église, ils ont décidé de faire quelques retouches. Passe à l'autre. Ça, c'est une danse Carolee Schneemann, Meet Joy, où ils sont à moitié à poil par terre et quelqu'un jette des poulets crus, du saucisson, du poisson, et ils roulent là-dedans et tout ça. Ouais, bah, on aime ou on n'aime pas, mais personne d'autre l'avait fait avant. Hein? prochain. Ça, c'est Lucinda Childs, dans ce qui s'appelle Carnation. Elle l'a refait il y a à peu près un mois à Chaillot, à plus de 80 ans. Et c'était magnifique. Elle a beaucoup d'humour, elle a une présence sur scène incroyable, et elle est montée sur son épaule sur la scène de Chaillot. Voilà. David Gordon et Val de Setterfield devant une télévision de l'époque. Yvonne Rainer à nouveau. Yvonne Rainer est devenue cinéaste après. Ça, c'est une pièce de Steve Paxton. À l'intérieur, je pense que c'est Robert Rauschenberg, le plasticien qui est dedans. Ça, c'est Robert Rauschenberg, une pièce qu'il a créée. Une pièce de Trisha Brown. Et une pièce sans auteur, c'est un petit collectif. Voilà. Et puis tu passes à l'autre, et puis là on peut lancer une vidéo. Ça c'est Yvonne Rainer, il n'y a pas de son.
On vient composer à
normalement il n'y a pas de son.
À
hein.
ce moment-là, quoi.
Oui, voilà. Mais dans Carnation, il y a un match de foot, donc. Ah, t'as regardé le foot avant.
Ouais. Et c'est celui-là.
Yes, voilà. C'est une pièce qu'elle ben, elle a refait plein de fois, mais elle a créé en 66. Ça, dans le... tu peux avancer un peu parce que les titres en 62 et 66 étaient longs. Voilà. Pour montrer un peu le type de travail, le type de gestuelle qu'elle utilisait. Les Judson, collectivement, il n'y avait pas de projet politique, en fait. Mais c'était une période quand même aux États-Unis, début des années 60, qui était dans la contestation, dans l'insubordination. C'est les luttes contre la guerre de Vietnam, pour les droits civiques, pour les droits de femmes. Et ils s'inscrivaient dans cette lignée-là quand même, mais en jouant, en fait. Le fonctionnement était collectif, égalitaire, anti-autoritaire. Ils étaient contre la hiérarchie chorégraphe-danseur, contre les dogmes et les normes de la technique de l'époque. Ça, c'est une très belle danseuse, Yvonne Rainer, mais elle voulait faire une danse que tout le monde pouvait faire avec les mouvements simples, quotidiens, qu'elle a refait à plusieurs reprises dans sa vie. une fois après une opération, elle appelait ça danse de convalescence, par exemple. Il voulait explorer autre chose que la technique, les mouvements quotidiens ordinaires. Et ils étaient contre la virtuosité. Montrer l'effort et ne pas dissimuler. Dans la danse classique, par exemple, ils sont là sur les pointes, ils font semblant que tout est simple, mais ça ne l'est pas. Et les Judson voulaient montrer tout cet effort. Parfois, pour créer, ils utilisaient la notion des tâches, établir certaines tâches, et par ces tâches, avec un grand empilement de chaises, qu'est-ce qu'ils allaient faire avec, ou des constructions, des choses comme ça. Chacun crée à sa manière, sans code ni règles. Steve Paxton disait, il faisait des pas esthétiques énormes, de façon détendue, tout en jouant. Mais quand même, c'était des fortes personnalités. Et au bout d'un moment, chacun voulait suivre leur propre chemin et avoir une compagnie avec des danseurs plus techniques, etc. Mais quand ils cherchaient leur propre travail, leur propre style, ils traduisaient ces principes qu'ils avaient commencé au Judson, anti-spectaculaire, anti-subjectivité, contre l'illustration du sentiment, et surtout avec un autre rapport au public. Et là, maintenant, on peut faire la prochaine vidéo. Là, celle qui sort du Judson, que je connais le mieux parce que j'ai dansé avec elle 6-7 ans, c'est... Non, ça. Lucinda Childs. Ça, c'est une danse qu'elle a créée en 79. Elle a repris, elle continue à reprendre. On peut sauter, ça dure une heure, donc on va juste... avancer par petits bouts, encore un peu. Voilà. Là, il y a du son. La musique, c'est de Philip Glass et le décor, c'est Saul LeWitt, qui a fait un film en 79 des danseurs de l'époque qui sont à la taille du proscenium. Donc, les danseurs de l'époque, sur scène, dansaient avec leur image en grandeur sur la scène. Aujourd'hui, c'est les danseurs de l'époque en grand sur la scène et les danseurs d'aujourd'hui qui dansent avec ces images derrière. Tu peux continuer à sauter un peu, juste au hasard, pour voir qu'est-ce que ça donne le film. Voilà. Sa danse est toujours très technique, est revenu un peu à la technique, à une écriture formelle, et avec ça un lien avec Merce Cunningham. Il n'y a toujours pas d'histoire, pas d'illustration de sentiments, il y a un refus de la séduction ou la culte personnalité. Les mouvements paraissent simples, ça reste des petits sauts, des petits tours et tout ça, mais c'est dans la construction, et dans le rythme, dans l'espace, géométriquement dans l'espace, et dans l'endurance aussi, parce qu'il faut tenir le coup à la création, la danse dure 1h40. Maintenant, c'est une version de 1h, je pense. Sa danse travaille par l'accumulation de petits changements. En regardant, on peut imaginer qu'on voit la même chose à répétition tout le temps, mais il y a toujours les tout petits changements qui, à la fin, font qu'il y a un grand changement. Et surtout, il y a une grande solidarité entre les danseurs. Il n'y a pas de marge d'erreur et il faut absolument compter les uns sur les autres. Il y a une adhésion au projet commun. Susan Sontag a écrit sur cette pièce, sur le travail de Lucinda en général, que c'est un travail égalitaire où il y a du respect mutuel, la coopération sociale. Il n'y a pas de genre normatif. Tout le monde fait la même chose. Les femmes n'ont pas besoin des hommes pour les soutenir, les attraper si elles tombent, bien qu'elles ne tombent pas. Voilà. Et surtout, à part le fait que moi je trouve cette danse sublime, il y a aussi, c'est un certain rapport au spectateur. Le spectateur est vu comme un partenaire et non pas un observateur passif.
la danse demande une attention aiguisée et garde une curiosité et reste ouvert quand même. Donc elle ne va pas faire le travail à ta place. Sinon, tu ne rentres pas dedans. Il faut rester sensible et ouvert. Selon Lucinda Childs, elle dit que sa danse opère sur la perception. En naviguant entre prédiction et spéculation, le spectateur est délogé fondamentalement de tout point de vue unique. Et du coup, c'est un acte conscient de voir. On va un peu arrêter là maintenant, si tu veux bien. Voilà. Donc ça, tout ça pour venir à un peu le creux de mon propos. Je vais citer une femme, Laurence Loop, c'est une personne qui écrivait sur la danse. Elle dit « Le mouvement de danser marquera son trait dans le corps qui l'enfante comme dans le corps qui l'accueille ou qui le perçoit. » Donc, il faut penser que la matière de la danse est le mouvement du corps dans le temps et dans l'espace. On n'a pas de violon qu'on peut mettre dans un coin, on n'a pas de texte, on n'a pas de peinture. Tu vis avec ton instrument tout le temps. Et du coup, moi je pense que la pensée de la danse est dans cette matière. Et le projet est dans la manière que cette matière est conçue, travaillée avec les danseurs et partagée avec le public. C'est surtout là, dans la matière, que réside, je trouve, cette pensée et ce projet artistique. Ce qui me fait dire que j'estime que, d'un côté, il y a de l'art, et pour ma part, la danse, qui impose ce qu'il faut penser, ressentir et percevoir. Et pour moi, ça, c'est de l'art autoritaire, voire liberticide, qui laisse peu de place à l'autre. Malheureusement, souvent, cet art est considéré comme populaire. Moi, je ne suis pas d'accord. Et de l'autre côté, il y a de l'art et donc la danse qui laisse l'autre venir vers, qui est souvent considéré, à tort, je pense, comme élitiste. C'est plus difficile, c'est moins confortable, il faut travailler, on ne peut pas rester passif. C'est un art qui dérange, qui nous invite à ressentir sans comprendre. Alors, si le message est dans la matière, c'est dans cette matière que résident les idées de liberté, d'autonomie de pensée et de respect. Autrement dit, la politique est dans la matière. Comment cette matière est partagée avec les collaborateurs et le public? Alors, oui, on peut lancer ça. Ça, c'est une chorégraphe contemporaine brésilienne. Lee Rodriguez, qui travaille à Rio, elle a une école et là, c'est ça. Et sa compagnie, elle est très grande défenseuse de l'Amazonie, le lieu et les peuples. Et elle le traite, entre autres, comme ça. Ça, c'est sa dernière pièce. Elle va faire, elle a une nouvelle création qu'elle va faire à l'automne. Je pense que c'est à Chaillot et au 104. Mais c'est juste pour dire qu'il y a aussi des gens aujourd'hui. Ce n'est pas juste une nostalgie pour le Judson. Il y a des gens d'aujourd'hui qui travaillent de cette manière, qui sont dans la matière. Ce n'est pas affiché, ce n'est pas dans le sujet. C'est transmis par la manière qu'ils travaillent et par cette matière. Ça, c'est... Bon, comment moi, j'ai évolué avec tout ça. Au bout d'une vingtaine d'années de travail en tant que danseuse, ce que tout le monde sait s'arrête autour de la quarantaine, après quelques formations, j'ai travaillé 4 ans avec les femmes en prison et 15 ans avec les adultes suivis en psychiatrie. Et du coup, moi, je pense que ces éléments que, après avoir reçu cet héritage de Judson, tout ce travail, je pense que ça m'a aidé à travailler dans différents milieux. Par exemple, le fait que tout est dense, que c'est OK de rien faire, qu'on peut jouer, qu'on peut faire un bon travail sérieux sans se prendre au sérieux, qu'il faut respecter toutes les propositions et les perceptions des gens avec qui on travaille, et qu'ainsi on peut les offrir des moments d'échapper à leur confinement, que ce soit réel pour les gens en prison ou pour les patients en psy liés à leur maladie et les médicaments. Et puis ensuite, j'avais un ami qui, pour des raisons qu'on ne va pas toucher ici, mais qui s'est trouvé à autour de 38 ans, je crois, il était en fauteuil. Et il continue à vivre sa vie de cette manière. Vincent, que je salue, s'il nous écoute, je pense. Et sans trop savoir ce que j'allais faire, je lui ai proposé qu'on fasse une danse ensemble. Et c'était une très belle expérience pour nous deux. J'aime beaucoup cette photo parce que précisément à ce moment-là, je lui ai dit « Attends Vincent, tu vas trop vite. » Et il rigolait, il a dit « Ça, c'est le comble que tu me dis que j'aille trop vite. » Et Vincent, avec cette expérience, le fait de travailler une danse, une œuvre en dehors de son corps, parce qu'à partir du moment où tu commences à créer quelque chose, ça commence à prendre vie en dehors de soi. Et il a dit, le fait de travailler sur cette chose en dehors m'a aidé à avoir le début d'une possibilité de vivre avec son corps. Et le prochain et dernier, ça fait partie d'un texte qui est écrit sur cette expérience, que je trouve très beau. Donc, je le dis, comment transformer le plomb en plume? Belle question pour l'alchimie de la danse. Le résultat, vous allez le voir, mais il m'importe moins que ce que vous ne verrez pas, c'est-à-dire le cheminement, les expériences qu'a fait ce corps. Tétraplégie, mais qu'est-ce que cela peut vouloir dire tant que je me rêve oiseau? Si vous me voyez en clume, ce sont vos yeux qui vous trompent, quand je vous promets, je suis oiseau. Alors, dernier point, je pense que j'ai le temps, personnel. J'ai d'autres amis danseurs américains qui vivent en France, et je pense que chacun a un peu sur leur version de cette histoire. Et c'est le genre de choses qu'on peut réaliser des décennies plus tard. Mais si on peut considérer la danse comme un langage, je pense qu'à un certain jeune âge, j'ai choisi ce langage-là que ne parlait pas mon entourage. Un peu comme un ticket de sortie, quoi, pour s'émanciper d'un certain milieu et un certain lieu. Et pour enfoncer le clou, venir le faire en France, dans vraiment un autre langage et une autre culture. Je pense à le fait d'avoir fréquenté les gens du Judson et travaillé avec certains de ces chorégraphes a vraiment influencé m'a aidé à construire ma pensée, en fait, à travers la danse. Donc, je m'arrête là. Et merci beaucoup. Ce n'est pas souvent qu'on donne la parole aux danseurs, donc j'apprécie.
Bien, merci Priscilla. Hélène, un livre ou deux?
Un livre de...
C'est le rituel.
Ah, j'aurais pu les emmener.
Voilà.
Ah oui, ça.
Oui.
Non, j'avais pas prévu, à part de redire qu'il y a les actes, art, anarchie et émancipation, hein, avec le texte de Priscilla Noël. Moi, je connais Priscilla parce qu'on a travaillé ensemble.
Oui.
Voilà, je suis très heureuse de te voir. Et nous, on s'est rencontrés aussi autour du handicap.
C'est
hein,
vrai. C'est
voilà.
Vrai.
Et que après, tu as travaillé avec des futurs thérapeute, ergothérapeute, voilà, pour qu'ils appréhendent leur corps autrement par rapport aux patients et aux personnes qu'ils allaient rencontrer, qu'elles soient en fauteuil ou qu'elles soient avec un certain nombre de difficultés. Mmh. Voilà, je suis très heureuse que tu sois là aujourd'hui.
Ben, moi aussi, merci.
Des témoignages, des questions
ou désaccords, ou je sais pas. Commentaires.
Bien, ben, s'il n'y a pas de... Vas-y. Micro, on va... Voilà, Michel,
merci.
Micro.
Oui, merci beaucoup. Oui. Moi, c'est juste un témoignage. Il y a quelques années, effectivement, j'étais pas tellement plus jeune qu'aujourd'hui, j'ai fait de la danse contemporaine. Et alors, ça a vraiment été la révélation, effectivement. J'avais jamais tellement trop réfléchi entre la danse classique, la danse contemporaine ou autre. Et c'est vraiment une danse de la liberté, effectivement, qui ne touche pas que le handicap. Hein, ça peut être adapté absolument pour tout le monde. Mais on y découvre, enfin, on se réapproprie une danse qui nous devient enfin possible par rapport à celle qu'on peut voir en spectacle, qui est la danse classique, qui tord les corps ou sur lequel il faut énormément de travail avant de pouvoir y arriver. Et nous, on peut faire, on peut aller sur une scène, on peut faire des choses en groupe, on peut inventer des spectacles. Et moi, j'en garde un grand, grand souvenir de liberté et d'émancipation, oui, de mon corps, mais aussi de ma tête, parce que j'ai réalisé que la danse classique, en fait, c'est quand même aussi une histoire de lutte de classe, quoi, il me semble. Hein,
et pour la danse contemporaine, il y a une très grande palette. Oui. Il y a aussi la danse très technique et très professionnelle et tout ça, mais c'est faisable d'ouvrir ça à beaucoup de monde.
Tout à fait.
Pour différentes, dans différents scénarios, je sais pas, différentes situations. Ouais.
C'est ça.
Et on peut avoir du plaisir.
Oh oui.
Sans être techniquement très formé. Oui.
C'est ça. Merci beaucoup.
De rien. Avec plaisir.
Une autre intervention. Oui. Voilà.
Et ben juste pour... alors, il y avait Andy de Groot avec
Wilson. Oui.
Et puis alors, qu'est-ce que vous dites après du hip-hop? Qu'est-ce que c'est, une nouvelle génération? Est-ce que c'est quoi? Comment vous le situez, quoi?
Je ne connais pas très bien. Ça m'impressionne. À un certain moment, je regardais, quand c'était un peu le début, par exemple à Lyon, devant l'Opéra, il y a des gens qui inventaient des trucs, à la Villette aussi. Et parfois, je regardais et je me suis dit, c'est un peu comme la danse classique, la façon qu'ils répètent, ils cherchent, ils travaillent, tout ça. C'est pas pour moi, parce que je tiens mes genoux, et ma tête, et mon cou, et je sais pas, les danseurs qui font cette danse-là, s'ils le font pendant 50 ans, c'est très difficile pour le corps. Mais je suis un peu inculte dans cette danse-là. Ça m'impressionne. Et il y a certains chorégraphes qui le mélangent avec d'autres. Et ça, j'aime beaucoup. Quand il y a toutes différents types de techniques qui sont tous mélangés. Hein?
Merci. D'autres interventions? Oui.
Ah.
Voilà, ça vient.
Oui, je suis un autre danseur américain en France. Et ça m'a mu beaucoup de voir ce que tu as présenté, Priscilla.
Oui.
J'étais une jeune danseur dans les techniques plus établies des années et des années. Et une fois, je suis allé voir un spectacle à Bernard College, de Grand Union, c'était une collective de gens qu'on a vus sur scène, là, les images. Là.
Qui venaient après Judson.
Oui, après Judson. Et le spectacle durait toute l'après-midi. Tu pouvais entrer, sortir. J'avais l'impression que, oui, bon, ça se passe pas grand-chose et rien. Et puis, ça m'a énervé et je me suis dit, c'est la fin de la danse. Et parce que je n'étais pas assez ouvert pour recevoir ça comme, comme tu as présenté. Et si ça, ça approche un peu le thématique de cette journée-là, d'anarchie, ces gens-là étaient en train de faire quelque chose qui faisait peur à beaucoup d'autres. Et donc, de revoir ces images-là me met tout en perspective avec 50 ans de différence.
Merci. Encore un.
Je me permets, parce que j'ai le micro, on pourrait citer la phrase d'Emma Goldman qui disait, en gros, si dans votre révolution on ne peut pas danser, votre révolution ne m'intéresse pas.
Voilà. Voilà, tout à fait. Monique, donc alors, d'abord, merci Priscilla.
De rien, merci à vous.